Dans l'Évangile, nous voyons que Jésus est sans cesse escorté par les anges depuis sa naissance jusqu'à sa tentation au désert et son agonie à Gethsémani. L'Évangile selon saint Luc nous dit qu'un ange est venu réconforter Jésus dans ce combat de l'agonie. Mais le Christ refuse le service des légions d'esprits célestes qui n'attendent qu'un signe pour empêcher les soldats de se saisir de lui. Quand il ressuscite, c'est un ange qui annonce aux saintes femmes la bonne nouvelle. Et lorsqu'il reviendra dans sa gloire, il sera encore escorté par les anges qui rassembleront les élus et sépareront les bons et les mauvais. Sainte Marguerite Marie, cette visitandine qui a bénéficié d'apparition du Christ dans sa chapelle de la Visitation à Paray-le-Monial à partir du 27 décembre 1673, a connu l'expérience mystique suivante. Un jour qu'elle était en train de travailler dans une petite cour du jardin qu'on appelle depuis la cour des Séraphins, elle a eu la vision du Sacré-Cœur, une de plus, et le Sacré-Cœur était entouré de toute une armée de Séraphins. Et ils chantaient « L'amour triomphe, l'amour jouit, l'amour du Saint-Cœur réjouit ». Et comme ces esprits bienheureux m'habitèrent de m'unir avec eux dans les louanges de ce divin cœur, je n'osais pas le faire. Mais ils m'en reprirent et me dirent qu'ils étaient venus afin de s'associer avec moi pour lui rendre un continuel hommage d'amour, d'adoration et de louange. Et que pour cela, ils tiendraient ma place devant le très saint sacrement, afin que je puisse l'aimer sans discontinuité par leur entremise, et que de même ils participeraient à mon amour, souffrant en ma personne comme je jouirais en la leur. Et du coup, elle a fait une espèce de petit contrat avec les anges. Vous ne pouvez pas souffrir comme moi, parce que vous n'avez pas de corps. Alors, c'était une des grandes idées de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'ai plus de chance que les anges, parce que je peux donner à Jésus un signe d'amour qu'ils ne peuvent pas donner. Ils ne peuvent pas souffrir. Moi, je peux le faire. J'ai plus de chance que les anges. Eh bien, vous, les anges, vous participerez au mérite de mes souffrances. Et moi, je participerai à votre adoration continuelle. On s'échange ce qu'on a. Je vous donne mes souffrances et vous me donnez la possibilité que vous avez de chanter tout le temps. Voilà, donc, ils font partie de cette cour céleste qui ne cesse d'adorer Dieu. Et au Moyen-Âge, quand Cluny était le grand centre international de l'Europe, ces moines de Cluny qui ont essaimé à travers l'Europe, eh bien, ils avaient inventé, comme ils étaient très nombreux, ils avaient inventé la laus perennis, comme on dit en latin, la louange perpétuelle. Ils se relayaient d'heure en heure dans leur immense église abbatiale de Cluny, dont il ne reste que des ruines, pour que sur terre, il y ait quelque chose qui ressemble à la louange du ciel. On a vu des communautés monastiques nourrir la sainte ambition de ne jamais faire taire la psalmodie dans leur église. Cela n'était possible que dans des abbayes nombreuses comme à Cluny. Divisés en plusieurs chœurs, les moines se relayaient sans interruption, offrant à Dieu l'hommage d'une louange continuelle à l'image des hiérarchies célestes. Donc, ils ne cessent d'adorer Dieu. Ils sont la cour céleste de Dieu. Mais leur nom, ange, qui vient de angelus en latin, angelos en grec, signifie messager. La plupart du temps, dans le ciel, dans la Bible, lorsqu'on en parle, c'est qu'ils sont chargés d'être les facteurs de Dieu. Ils apportent aux hommes une bonne nouvelle. C'est à cause de ce rôle, d'ailleurs, qu'ils s'appellent anges. Et c'est aussi la raison pour laquelle on les représente souvent, pas toujours, avec des ailes, pour montrer qu'ils sont capables de se rendre d'un instant à l'autre bout du monde. Si un jour vous visitez la basilique de Sainte Thérèse à Lisieux, vous verrez que l'artiste a représenté sur l'arc triomphal toute une série de scènes bibliques où un ange intervient. Cela vient du fait que les sœurs de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus aimaient beaucoup les anges, avaient une grande dévotion pour les anges, et donc elles se sont arrangées pour représenter des scènes de l'Ancien Testament où un ange intervient. Un ange arrête le bras droit d'Abraham sur le point d'immoler Isaac, à genoux sur le bûcher, tandis que de l'autre main, l'ange montre la Vierge Marie et son enfant au sommet de l'arbre de Jessé. Jessé, père de David, est un lointain ancêtre du Messie. Au-dessous, Agar, l'esclave d'Abraham, est chassée au désert et ne sait comment nourrir son enfant. Un ange lui indique la source qui désaltérera son petit Ismaël. Tout en bas, le jeune Tobie, conduit par l'ange Raphaël, pêche le poisson grâce auquel il pourra écarter les démons qui menacent son futur foyer, et ce poisson rendra aussi la vue à son vieux père qui s'appelle également Toby. Sur la droite, en haut, un vieillard est conduit par un ange, c'est Moïse, sortant de la terre d'Égypte et marchant à la tête de son peuple vers la terre promise. Au-dessous, c'est le prophète Élie, découragé, assis dans le désert à l'ombre d'un arbuste. Un ange vient le réconforter en lui donnant du pain. Élie reprend sa marche vers le Sinaï, où Dieu se manifestera. Enfin, tout en bas, nous voyons Daniel dans sa fosse, préservé par un ange de la férocité des lions. Vous verrez dans le polycopier toutes les références des textes bibliques où il est question de l'intervention d'un ange, soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament. Ces anges sont les collaborateurs de Dieu. Je vous parlerai plus tard longuement de ce grand mystère de la providence de Dieu qui sait très bien ce qu'elle fait dans le monde, qui sans manipuler, sans contredire notre liberté, et là est le mystère absolument incompréhensible, gouverne tout dans le monde, eh bien, les saints pensent que les anges collaborent à la bonne marche du cosmos. Alors ça nous semble impensable, puisqu'on sait qu'il y a des lois physiques très, très précises qui président à ce gouvernement du monde, mais il ne manque pas de grands esprits comme Newman, ce grand intellectuel anglais, anglican qui s'est converti au catholicisme au XIXe siècle, et qui disait que les anges sont les machinistes de l'univers. Origène, au IIIe siècle, vous me direz qu'à l'époque, on ne connaissait pas les lois physiques comme maintenant, mais Newman les connaissait bien. Origène, au IIIe siècle, disait déjà qu'ils étaient les serviteurs du Verbe dans l'administration des animaux, des plantes et des astres. Voici le texte de Newman. « Il y a des anges à côté de vous. C'est un péché de ne pas les voir, disait-il dans ses fameuses conférences. Pourquoi est-ce que les rivières coulent et la pluie tombe et les vents soufflent? La nature n'est pas sans âme. Quand vous priez pour avoir du beau temps, ce n'est pas idiot, les anges peuvent intervenir sur la météo. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, ça c'est pas un dogme. Hein? Bon, je tiens beaucoup à toujours distinguer ce qui est de foi et ce qui est proximum fidei, comme on dit. À chaque souffle d'air, à chaque rayonnement de lumière et de chaleur, devant une perspective de beauté, nous touchons les franges, nous voyons s'agiter la robe de ceux qui contemplent Dieu face à face. J'imagine donc un savant, il est en train d'analyser une fleur, un brin d'herbe, une pierre, un rayon de lumière. Et si soudain il découvrait sous ses formes visibles un être puissant qui se cache, qui leur donne leur beauté, leur grâce, leur perfection, quel ne serait pas le saisissement de cet homme ? Et Bernanos fait écho à Newman dans le journal d'un curé de campagne, quand il met sur les lèvres du curé de Torcy la réflexion suivante, « Les petites choses n'ont l'air de rien, mais elles donnent la paix. C'est comme les fleurs des champs, vois-tu. On les croit sans parfum, et toutes ensemble elles embaument. La prière des petites choses est innocente. Dans chaque petite chose, il y a un ange. On ne prie pas assez les anges. Ils font un peu peur aux théologiens, rapport à ces vieilles hérésies des églises d'Orient. Le monde est plein d'anges. Quand je regarde le ciel étoilé, quand je pense à ces myriades de galaxies qui sont dans le monde, que les hommes connaissent mais où sans doute ils n'iront jamais, il n'est pas impossible que Dieu ait voulu qu'il y ait au milieu de ces myriades de galaxies des anges qui chantent la gloire de Dieu, puisque nous ne pouvons pas y aller. Pourquoi pas? On a le droit de rêver. Mais c'est un rêve beaucoup plus intelligent que tous ceux qui se précipitent sur la littérature d'Harry Potter. Donc, les anges, collaborateurs, privilégiés de cette mystérieuse providence qui régit le monde et qui fait tout concourir à notre bien. Et c'est pourquoi les anges sont toujours heureux. Parce que les anges voient déjà à l'œuvre la providence de Dieu. Mon ange gardien n'est jamais troublé par toutes les misères qui peuvent m'arriver. Pas plus que mon papa et ma maman, s'ils sont dans le ciel. Je vous ai dit cela. Dans le ciel, on ne pleure pas. On compatit infiniment, mais on ne pleure pas. Parce qu'on voit que tout est grâce. C'est merveilleux. Et justement, les anges doivent nous aider à vivre déjà ici-bas quelque chose de cette joie du ciel. Dans tous nos tourments, ils doivent nous rappeler que plus tard, nous comprendrons comme eux tout ce qui nous arrive, que nous comprendrons enfin ce qu'on appelle les desseins impénétrables de la Providence. Les anges ne se lamentent jamais. D'ailleurs, vous ne voyez jamais dans l'iconographie des anges pleurer. Des anges vraiment pleurer. Parce que les anges, ils sont toujours en train de voir que Dieu conduit tout avec sagesse. Nous en parlerons longuement dans cette conférence difficile sur la divine providence. Arrivons maintenant à parler des anges gardiens. Ce n'est pas un dogme, les anges gardiens. Si vous niez que vous avez un ange gardien, vous êtes peut-être sot, mais vous n'êtes pas hérétique. Comme l'Écriture présente Saint Michel comme le défenseur du peuple d'Israël, l'Église a pensé qu'elle avait hérité du même protecteur. D'où le culte de l'archange Saint Michel, qui s'est développé assez vite chez les chrétiens. Des sanctuaires furent édifiés en son honneur, notamment celui du mont Gargan en Italie. Et chose curieuse, le Padre Pio a vécu toute la fin de sa vie tout près du mont Gargan en Italie. Comme si Saint-Michel avait voulu protéger très spécialement ce magnifique prêtre, premier prêtre stigmatisé dans l'histoire de l'Église. Et celui du mont Tumba au 8e siècle devenu le célèbre mont Saint-Michel. On en est même venu à penser que chaque pays, chaque cité, que chaque homme avait son protecteur céleste. Jésus ne dit-il pas que les enfants ont leur ange protecteur? Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient constamment la face de mon Père des cieux. Et c'est ce petit verset de l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 18 qui a été à l'origine de la foi des chrétiens dans le fait que nous avons tous un ange gardien. Si les petits-enfants ont un ange pour les protéger, cet ange ne va pas les abandonner quand ils deviendront adultes.